Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, voici donc, comme annoncé, le second volet consacré à Marcel Proust. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent le territoire polonais. Officier de réserve, Joseph Zabski rejoint son régiment avec lequel il se dirige vers l'Est. Mais à la fin du mois, il est fait prisonnier par les Soviétiques, d'abord interné à Starobielsk, puis à Gryazowiec. C'est durant l'hiver 1940-1941, dans le froid réfectoire d'un couvent désaffecté, qu'il dictera un essai sur Proust, résultat des conférences qu'il tint dans le camp pour soutenir ses camarades. Ces conférences, dans un contexte hors du commun, ont aussi pour particularité de recomposer de mémoire quelques-unes des pages du roman auxquelles le prisonnier n'a évidemment pas la possibilité de se référer avec exactitude. Voici les toutes dernières lignes de cet essai. Proust ne pouvait pas ne pas comprendre que dans l'état de sa santé, cet effort énorme et fiévreux qu'exigeait de lui la mise au point de son œuvre précipitait sa mort. Mais il avait pris son parti, il n'y prenait garde, et la mort lui était vraiment devenue indifférente. Elle était venue le prendre, comme il l'avait mérité, en plein travail. On l'a retrouvé mort le matin dans son lit, le 18 novembre 1922. Sur sa table de nuit était renversé un flacon de médicaments dont le liquide avait noirci une toute petite feuille de papier sur laquelle avait été noté cette nuit même, de sa fine écriture nerveuse, le nom d'un personnage moins que secondaire d'À la recherche, Forcheville. On pense alors aux dernières paroles que l'on prête à Balzac sur son lit de mort. « Appelez Bianchon, seul Bianchon peut me sauver. » Bianchon, médecin dans la galerie des personnages de la comédie humaine. On a vu la dernière fois que Proust se plaisait à orchestrer son texte à l'aide de leitmotifs empruntés à la nature, par exemple les aubépines, ou constitutifs de la trame narrative telle que la ponctuent les principaux personnages, Forcheville par exemple, qui vient d'être cité. Mais ce qui peut à présent retenir notre attention, c'est le leitmotiv de la musique elle-même, étroitement liée à la poésie toute particulière, qui irrigue et diapre la recherche du temps perdu. On l'a dit la dernière fois, trois heures majeures sont incarnées dans des personnages phares, Elstir pour la peinture, Bergotte pour la littérature et Vinteuil pour la musique. Voici les pages consacrées à la musique dans « Du côté de chez Swann », qui mettent le mieux en relief, me semble-t-il, l'importance de l'impressionnisme, non seulement en tant que mouvement pictural, mais encore et surtout comme manière de sentir qui colore toutes les créations du temps et particulièrement la création romanesque proustienne. La fin du texte évoque, on le verra, le poème « À une passante » de Charles Baudelaire que Proust connaissait certainement par cœur. Voici donc cet extrait. Or, quand le pianiste eut joué, Swann fut plus aimable encore avec lui qu'avec les autres personnes qui se trouvaient là. Voici pourquoi. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon mince, résistante, dense et directrice, il avait vu, tout d'un coup, chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase, ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses, circulant dans l'air humide du soir, ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu'il ne savait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inétendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre d'impression. Une impression de ce genre pendant un instant est pour ainsi dire sine materia. Sans doute, les notes que nous entendons alors tendent déjà, selon leur hauteur et leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par celles qu'éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son fondu les motifs qui par un instant en émergent, à peine discernables, pour plonger aussitôt et disparaître, connus seulement par le plaisir particulier qu'ils donnent, impossibles à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffables. Si la mémoire, comme un ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des facsimilés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi, à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni séance tenante une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux, tandis que le morceau continuait. Si bien que, quand la même impression était tout d'un coup revenue, elle n'était déjà plus insaisissable. Il s'en représentait l'étendue, les groupements symétriques, la graphie, la valeur expressive. Il avait devant lui cette chose qui n'est plus de la musique pure, qui est du dessin, de l'architecture, de la pensée, et qui permet de se rappeler la musique. Cette fois, il avait distingué nettement une phrase s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. D'un rythme lent, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement elle changeait de direction et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois, et elle reparut en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais, rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui, une passante qu'il a aperçue un moment, vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom.
Thank you.
Mais le personnage de Proust, Charles Swann, n'en a pas fini avec la sonate. Voici donc un autre extrait du côté de chez Swann, au moment précisément où Swann se prépare à entrer dans le salon de Madame Verdurin. À son entrée, tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait pour eux deux la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Il commençait par la tenue des trémolos de violon, que pendant quelques mesures, on entend seul, occupant tout le premier plan, puis tout d'un coup, il semblait s'écarter, et comme dans ces tableaux de Peter de Hoche, qu'approfondit le cadre étroit d'une porte entrouverte, tout au loin d'une couleur autre, dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant çà et là les dons de sa grâce, avec le même ineffable sourire. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli, comme le détachement qui succède au regret. Mais peu lui importait. Il la considérait moins en elle-même, en ce qu'elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait l'existence et de lui et d'Odette quand il l'avait composée, et pour tous ceux qui l'entendraient dans des siècles, que comme un gage, un souvenir de son amour, qui, même pour les Verdurin, pour le petit pianiste, faisait penser à Odette en même temps qu'à lui, les unissait. C'était au point que, comme Odette, par caprice l'en avait prié, il avait renoncé à son projet de se faire jouer par un artiste la sonate entière dont il continua à ne connaître que ce passage. « Qu'avez-vous besoin du reste ?» lui avait-elle dit. « C'est ça, notre morceau ?» Et même, souffrant de songer, au moment où elle passait si proche et pourtant à l'infini, que tandis qu'elle s'adressait à eux, elle ne les connaissait pas, il regrettait presque qu'elle eût une signification, une beauté intrinsèque et fixe, étrangère à eux, comme en des bijoux donnés ou même en des lettres écrites par une femme aimée, nous en voulons à l'eau de la gemme et aux mots du langage de ne pas être fait uniquement de l'essence d'une liaison passagère et d'un être particulier. » L'influence du philosophe Henri Bergson sur Proust a souvent été soulignée. Aussi n'est-il pas surprenant de constater qu'un autre philosophe, lui aussi grand lecteur de Bergson, Vladimir Jankélévitch, ait analysé et disséqué le charme de la musique dans son essai « La musique et l'ineffable ». Voici ce qu'il écrit, par exemple. « Le masque inexpressif que la musique se donne volontiers aujourd'hui recouvrait donc sans doute le propos d'exprimer l'inexprimable à l'infini. La musique, disait Debussy, est faite pour l'inexprimable. Précisons toutefois, le mystère que la musique nous transmet n'est pas l'inexprimable stérilisant de la mort, mais l'inexprimable fécond de la vie, de la liberté et de l'amour. Plus brièvement, le mystère musical n'est pas l'indicible, mais l'ineffable. Nul doute que le personnage d'esthète qu'est Charles Swann eût souscrit à cette analyse. Et puisque l'ineffable est interminablement à dire, selon l'expression de Jean Kelevitch, le narrateur de la recherche, par le biais de Swann d'abord, puis à travers sa perception propre, revient constamment sur les pouvoirs de la musique. Et la sonate de Vinteuil, considérée dans un premier temps sous l'angle d'une petite phrase, sera amplifiée tout au long du cycle romanesque pour devenir un septuor dans le roman. Et c'est cette fois le narrateur lui-même qui analysera ses impressions. On remarquera aussi qu'à la fin de cet extrait que je vais lire, le mot « ineffable » est précisément, et cela croise la pensée de Jean Kelevitch, le mot « ineffable » est employé à deux reprises. L'extrait se situe dans le volume de la recherche intitulé « La prisonnière ». Le concert commença, je ne connaissais pas ce qu'on jouait, je me trouvais en pays inconnu. Où le situer ? Dans l'œuvre de quel auteur étais-je ? J'aurais bien voulu le savoir, et n'ayant près de moi personne à qui le demander, j'aurais bien voulu être un personnage de ces mille et une nuits que je relisais sans cesse et où, dans les moments d'incertitude, surgit soudain un génie ou une adolescente d'une ravissante beauté, invisible pour les autres, mais non pour le héros embarrassé à qui elle révèle exactement ce qu'il désire savoir. Or, à ce moment, je fus précisément favorisé d'une telle apparition magique, comme quand, dans un pays qu'on ne croit pas connaître, et qu'en effet, on a abordé par un côté nouveau, après avoir tourné un chemin, on se trouve tout d'un coup débouché dans un autre, dont les moindres coins vous sont familiers, mais seulement où on n'avait pas l'habitude d'arriver par là, on se dit tout d'un coup, « Mais c'est le petit chemin qui mène à la petite porte du jardin de mes amis. Je suis à 2 minutes de chez eux. » Et leur fille est en effet là, qui est venue vous dire bonjour au passage. Ainsi, tout d'un coup, je me reconnus au milieu de cette musique nouvelle, pour moi, en pleine sonate de Vinteuil. Et plus merveilleuse qu'une adolescente, la petite phrase enveloppée, harnachée d'argent, toute ruisselante de sonorités brillantes, légères et douces comme des écharpes, vint à moi, reconnaissable, sous ses parures nouvelles. Ma joie de l'avoir retrouvée s'accroissait de l'accent si amicalement connu qu'elle prenait pour s'adresser à moi, si persuasif, si simple, non sans laisser éclater pourtant cette beauté chatoyante dont elle resplendissait. Sa signification d'ailleurs n'était cette fois que de me montrer le chemin et qui n'était pas celui de la sonate, car c'était une œuvre inédite de Vinteuil, où il s'était seulement amusé par une allusion que justifiait à cet endroit un mot du programme qu'on aurait dû avoir en même temps sous les yeux, à faire apparaître un instant la petite phrase. À peine rappelée ainsi, elle disparut et je me retrouvais dans un monde inconnu. Mais je savais maintenant, et tout ne cessa plus de me confirmer, que ce monde était un de ceux que je n'avais même pu concevoir que Vinteuil eût créé, car quand, fatigué de la sonnette, qui était un univers épuisé pour moi, j'essayais d'en imaginer d'autres, aussi beaux mais différents. Je faisais seulement comme ces poètes qui remplissent leur prétendu paradis de prairies, de fleurs, de rivières, qui font double emploi avec celle de la terre. Ce qui était devant moi me faisait éprouver autant de joie qu'aurait fait la sonate si je ne l'avais pas connue. Par conséquent, en étant aussi beau, était autre. Tandis que la sonate s'ouvrait sur une aube liliale et champêtre, divisant sa candeur légère, mais pour se suspendre à l'emmêlement léger et pourtant consistant d'un berceau rustique de chèvrefeuille sur des géraniums blancs, c'était sur des surfaces unies et planes comme celles de la mer que, par un matin d'orage, commençait au milieu d'un aigre silence, dans un vide infini, l'œuvre nouvelle. Et c'est dans une rose d'aurore que, pour se construire progressivement devant moi, cet univers inconnu était tiré du silence et de la nuit. Ce rouge si nouveau, si absent de la tendre, champêtre et candide sonate, teignait tout le ciel, comme l'aurore, d'un espoir mystérieux. Et un chant perçait déjà l'air, chant de 7 notes, mais le plus inconnu, le plus différent de tout ce que j'eusse pu jamais imaginer, à la fois ineffable et criard, non plus roucoulement de colombes, comme dans la sonate, mais déchirant l'air, aussi vif que la nuance écarlate dans laquelle le début était noyé, quelque chose comme un mystique chant du coq, un appel ineffable mais suraigu de l'éternel matin. Proust s'est défendu d'avoir écrit un roman à clé. Toutefois, les critiques littéraires ont toujours cherché à reconnaître, derrière les personnages, les personnes réelles qui les ont inspirées. Ainsi, établit-on un parallèle entre Charles Swann et Charles Haas, entre le baron de Charlus et Robert de Montesquieu, et surtout entre Vinteuil et Gabriel Fauré. Gabriel Fauré a particulièrement inspiré aussi Jean Kélévitch, qui centre presque tout son essai, celui dont j'ai parlé, sur Gabriel Fauré et sur Claude Debussy. Et c'est pourquoi, justement, j'ai choisi aujourd'hui des extraits de la musique de Gabriel Fauré. Et vous avez donc pu entendre tout d'abord l'Andante de la sonate pour violon et piano numéro 1, opus 13, interprété au piano par le pianiste polonais Rafał Blechacz et par la violoniste Bomsori Kim. Ensuite, vous avez pu entendre l'Adagio du Quatuor avec piano numéro 2, opus 45, interprété par Pascal Roger au piano et par le Quatuor Isaïe. Et enfin, vous avez pu entendre l'Andante Moderato de Gabriel Fauré, toujours, le quintet avec piano numéro 2, opus 115, toujours interprété par Pascal Roger et par le Quatuor Isaïe. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.